On va démarrer cet après-midi avec deux ateliers, l'un sur les transmissions et l'autre qui traitera du refuge, demande d'asile et toutes les questions qu'on commence à bien connaître.
Là, donc cet atelier intitulé « La transmission », c'est en fait la préservation et donc la transmission de notre mémoire de lesbienne. Donc. Et de voir aussi, ça va être aussi très, très pragmatique, donc de voir quel genre de support, comment on préserve cette mémoire, comment on la perpétue et comment on la transmet, donc quel lieu, etc., et quel projet commun. Je dis d'emblée, l'objectif c'est de créer un réseau européen pour commencer. Et ce n'est qu'une première, et donc on va vers vraiment un avenir réel qui a déjà été discuté. Enfin, pas disons la substance. On l'élabore ensemble. L'appel est vers toutes celles qui se sentent concernées. Donc, il ne faut pas nécessairement appartenir à une organisation pour sentir intéressé par le projet. Alors, chacune va se présenter au fur et à mesure qu'elle fera son exposé. Donc, je ne vais pas jouer ce jeu-là. Donc, je passe la parole à Paul, des chronologies lesbiennes.
Alors, je suis Paul Martel, de la coordination lesbienne en France, et c'est un travail de la coordination lesbienne en France. C'est la chronologie lesbienne. Comment est née cette idée? En 2010, les 40 ans du féminisme ont été en France l'occasion d'un grand travail de mémoire. Puisque les lesbiennes ont largement contribué au mouvement féministe, il était indispensable de les associer à ces festivités. C'est ce que la coordination lesbienne a fait en organisant un colloque sur deux journées qui ne réinterrogeait pas la place des lesbiennes dans le mouvement féministe, mais abordait directement l'histoire du mouvement des lesbiennes sous le titre « Mouvement des lesbiennes, lesbiennes en mouvement ». Ce colloque très riche a montré que cette histoire restait encore largement à écrire. Plus modestement, l'idée nous est alors venue d'établir une chronologie lesbienne dans le souci de transmettre cette histoire, certes aux plus jeunes, mais plus largement à la faire connaître. En quoi consiste cette chronologie? Il s'agit de retrouver année par année les événements, initiatives, actions et créations lesbiennes, mais aussi féministes et LGBT. Identifier ce qui, dans le contexte social, politique, économique ou dans l'actualité de l'époque, permet de cerner la situation des lesbiennes et des femmes. Ce travail de chronologie a pour objectif la mutualisation d'une base commune d'information, la préservation de la mémoire lesbienne et sa mise à disposition en libre accès. Transmettre, ce n'est pas donner quelque chose à quelqu'une. Une histoire, par exemple, c'est la rendre dépositaire de cette histoire à son tour pour faire naître l'envie d'agir, d'avancer, de développer, de désirer. La chronologie prend tout son sens dans ce mouvement continu. Nous avons établi une série de fiches depuis 40 ans, dès 1970, année par année. Chaque fiche se compose de 5 parties. Le contexte, qui va comporter surtout tout ce qui va être politique, européen, les lois, etc. Les textes fondamentaux, les événements, donc toutes les initiatives lesbiennes, les créations, que ce soit de groupes, d'associations ou d'œuvres artistiques, les parutions de journaux et d'ouvrages. À propos des publications, aujourd'hui ce travail a fait l'objet d'une première publication en 2010 en annexe des actes du colloque dont nous avons parlé. Et il est disponible sur le site de la coordination lesbienne. Ce projet est parti avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'ambition, avec l'idée d'un wiki lesbien où l'information de base pourrait être enrichie. Un outil a même été trouvé, et puis nous sommes revenus à un système plus simple, une base de données multicritères sous Excel. À propos des sources, cette chronologie s'appuie sur une première base de travail réalisé par Martine Laroche qui faisait partir sa chronologie de l'Antiquité. Nous avons démarré avec les années 70 et abouti jusqu'en fin juin 2013 et avons enrichi cette première base avec le dépouillement systématique des revues, homophonie, désormais, Quand les femmes s'aiment, Lesbien Magazine et les compléments transmis par les associations, les Dégénérés, le groupe Lox, La Barbare, La Lune et Bagdam. Mais qu'en dit le groupe de travail quand il s'appuie et tient à ce travail? C'est se replonger avec intérêt dans notre histoire, faire ressortir les faits marquants à destination des plus jeunes, des moins politisés, des isolés et des lesbiennes d'ailleurs. Revenir sur la vie, les pensées, les préoccupations des lesbiennes d'il y a 50 ans et faire le lien avec la situation actuelle en mesurant l'évolution. Redécouvrir ou même découvrir des pans entiers de notre histoire. À propos de la découverte, c'est tomber sur des informations jusque-là inconnues, détecter des filiations entre les groupes, faire un lien entre les époques et les personnes. Mais bien sûr, et surtout, le plaisir du travail partagé. Compulser cette masse d'informations donne des idées pour mieux la présenter, la mettre en valeur et la diffuser. Nous avons le sentiment que cette exploration n'en est qu'à ses débuts, même après 3 ans de travail. La question que nous nous posons, c'est : est-ce que ce travail est utile ? La minorité lesbienne est singulière. Elle ne sera jamais explorée dans une autre catégorie. C'est donc aux lesbiennes elles-mêmes d'écrire leur propre histoire. Ce travail de chronologie peut donner une impulsion, créer une dynamique pour de plus en plus de visibilité, continuer à agir à propos des luttes et à réagir face aux discriminations. Il peut être le support de débats, d'écrits, de rencontres, d'échanges en région et partout ailleurs. Citons cette jeune universitaire qui a répondu à une enquête qui a été faite à propos de ce travail. Cette chronologie m'a été d'une aide précieuse dans le cadre de mes recherches. Elle m'a surtout été extrêmement utile pour avoir des points de repère lorsque j'ai entamé mon travail et que je n'avais encore aucune connaissance du sujet. Heureusement que vous êtes là pour écrire ce type de chronologie. Sans vous, sans nous les lesbiennes, qui le ferait ? Et maintenant, nous nous posons également la question sur les perspectives à propos toujours de ce travail. Une version enrichie est prévue pour septembre 2013. Des chronologies thématiques. Nous avons commencé à travailler sur des chronologies régionales, ce qui permet de combler les lacunes de l'information et de solliciter sur cette base la mémoire des lesbiennes dans la région concernée. Mais également les actions non mixtes en marge des fiertés, les rencontres nationales des lesbiennes, la tradition des actions non mixtes en marge des fiertés, l'évolution des positions politiques, les actions contre la lesbophobie et de visibilité lesbienne, le travail des lesbiennes avec les groupes féministes, les textes en regard de notre actualité, par exemple le mariage, la vision d'hier, celle d'aujourd'hui, également des bases d'images et l'idée de plus publier les textes de fond du début du mouvement en les mettant en regard des positions actuelles. Je vous remercie.
Voici maintenant l'exposé de Karine des Archives lesbiennes de Francfort en Allemagne.
Ok. Mon français, c'est pas assez pour parler tout ça que je veux dire en français. Je vais prendre l'anglais. Thank you for the invitation to Marseille. It's time that the world understands that we lesbians and gays are ordinary citizens of the world and we have the same rights and the obligations of all heterosexual persons. The Lesbian Archive of Frankfurt sends many cordial greetings to all. Currently taking place at Frankfurt, the CSD Christopher Street Day means Frankfurt Pride. So I was asked to present the archive as a tour guide, I have my really best friend, my mother. My name is Karen. I'm 40 years old, and I'm lesbian since I was born. I think so. I tried my coming out to tell my mother, and she only asked me, "Do you have a new friend, new girlfriend?" That's all. So I will tell you about the Lesbian Archive of Frankfurt. It's a history since 1990. The Lesbian Archive grew out of the urgent need to secretive spilled and falsified history of lesbians, their living conditions, past and present, the work they have done, and what they learned to make knowledge visible and documented. We want to represent in the Lesbians Archive in the entirety in their private, cultural, social, and political context of life, and not with the individual perspectives of psychology, medicine, or even the criminology out. We therefore see ourselves as political, the goal of the public relations. That from the concept of the Lesbian Archive 1990. It happened in the year 1989 that about 40 Frankfurt lesbians decided to take the part of some called mainstream politics, and a club was founded. So give right to their demand for urban financial rewards and promotion. Among them, the founders of the Lesbian Archive. After for urban bureaucratic relationships, short time, the of 6 months, the Lesbian Archive received in the summer of the 1990, for the first time, gets money from the Office of Science and Arts of the City of Frankfurt to set up herself. With the opening of the Gay and Lesbian Community Center in the Klingerstraße of Frankfurt, the Lesbian Archive is now also received to permanent place in space. The Archive of Frankfurt is a project of the Association Alive Lesbian called LLLE.V. The club has received the Lesbian and Gay Community Center. The association is determined by the contribution paid the club members. Otherwise, the Culture House gets a promotion from the City of Frankfurt in an amount of 40,000 euros a year. With this, we have to pay all the rent of the house, the energy, the water, and anything else. The Lesbian Archive must apply every year the General Assembly of the Association support. We currently have 2 times 2,000 euro, also 4,000 in a year. With this money, we have to pay all the things an archive needs, the books, the CDs, the videos, and all things else, also the paper was written on. Our team, when the Lesbian Archive is born, there were 9 lesbians who was created everything. Meant no, now we are 2.5 person. And I'm one of these. Our archive are currently just over 4,600 books by about lesbians, non-fiction from a variety of fields such as cultural history, sexuality, biographies, feminism, coming out, youth, age, transgender, travel, psychology, music and theater, as well as poetry. Also comics, picture books, and novels and thrillers. And rising as we are always striving to acquire new relations and out of print, copies lesbian publications in order to ask you, borrow and use. We have a system to for document all those things, and it's called LISA, Lido 6. I don't know if everybody knows this. It's necessary for an archive. Every October, we have the great international book fair at Frankfurt with some of the lesbian and gay publishers. A very successful event in which publishers and authors introduce their new books. This year is the 11th Lesbian and Gay Reading Night. I'm started with three writers, and the last year there were 10 writers who are presenting their new books in one night. We are collecting always something more. The magazines. I think also we have something of France. 100 titles, feminist moments, and lesbian magazines, international, Germany-wide, regional and urban related. We archiving not only German magazines, we also archive English and American lesbian magazines. If I can get something in a different language, I will archive it. Now to our video archive. It contains documentaries and features films on cassette or DVD, as well as from the recorded TV. I took the video archive that existed from the time of the building, and I started with 50 cassettes of film. Now we have 200 videos, 220 DVDs, and every month there is something new coming. 2010, I read in a magazine about the L Film Night, it means Lesbian Film Night, at the movie at Cinemax in Offenbach. Offenbach, why not in Frankfurt? Because Frankfurt has no Cinemax movie, so I called Berlin at the distributor of Edition Salzgeber and I asked, can I get this in our Lesbian Kulturhaus? They asked the cinema said, we don't have enough visitors, and so I got it. Every month I have one lesbian film night, but also one gay film night. But the gay money goes to the lesbian archive. It's no problem. We are also collecting CDs, posters. Our posters were on paper, but I take them and scan it for get in the personal computers for looking for everybody. We are a very small archive, and so I don't have to tell you much. We don't have any problems. We have only one. We are not enough women who will work for nothing. Because we don't get any money for our work, and that's a great difference to the other German archives, because they get their money from some positions in the country or in the city or somewhere else, and they live from this money. And we don't have this problem because we are working for free, get our 4,000 euro for 1 year to buy everything we need. And that's all. Any questions? No? I will say thank you to you.
Voici maintenant l'intervention de Michel, donc des archives lesbiennes de Paris.
Bon, c'est pas facile du tout d'intervenir sur la thématique des transmissions quand on est quand on collabore aux archives lesbiennes depuis très longtemps et qu'on est comme moi dans les luttes et dans le présent et qu'on est aussi dans ce passé qui est un passé vivant, pas toujours facile à transmettre et à diffuser. Voilà. Donc c'est difficile de parler de transmission. On l'a encore vu ici hier. Comment justement l'histoire ou les histoires lesbiennes et féministes et homosexuelles sont transmises, utilisées, relues, révisionnées, etc. Et je pense que c'est autour de tout ça qu'on doit s'interroger aujourd'hui. Les archives lesbiennes ont accumulé depuis les années 80 un certain nombre de documents. On utilise les nouveaux médias depuis maintenant une bonne dizaine d'années. On est en projet donc avec entre autres la coordination lesbienne, puisque la coordination lesbienne travaille presque jour le jour aux archives lesbiennes depuis 2 ans, à constituer leur Wikipédia, donc à utiliser essentiellement les documents du fonds des archives lesbiennes, qui est totalement multiple. Je pense que le gros problème n'est pas, même si, en fonction de la génération d'où on vient, n'est pas les outils techniques, même si Marianne va y revenir. Je pense que le problème, il est un problème de fond, autour de justement nos histoires. Nous n'avons toujours pas résolu et croisé nos histoires multiples. Nous n'avons toujours pas avancé sur un échange dans l'oralité aussi bien que dans les pratiques lesbiennes. Les pratiques. Et autour de tout ça, je pense que tout est encore à faire. C'est-à-dire les pratiques militantes, autant les pratiques universitaires dès les années 90, même milieu des années 80, ont commencé à se mettre en œuvre, à travailler en réseau, etc. Autant les pratiques militantes, diverses, contradictoires, même en chacune de nous, et je suis très bien placée pour en parler, ont toujours une grande difficulté à être transmises. La coordination lesbienne, lors des actes du colloque, et je vous conseille vraiment de les acquérir, ont commencé à croiser justement tout ça, entre le wiki et justement toutes ces ateliers d'intervention. Mais je pense qu'encore une fois, et on le voit encore aujourd'hui dans toutes ces journées, il est très difficile d'avoir des paroles qui ne soient pas des échanges, on va dire... De là où on est, mais avec acceptation des contradictions, acceptation de l'histoire que l'on porte chacune, qui peut être une histoire contradictoire. Donc si on a un débat dans la salle aujourd'hui, et j'aurais aimé qu'on continue dans des ateliers, et peut-être partout dans les différentes régions, c'est autour de ça. L'interrogation et les croisements sur nos pratiques, nos contradictions dans nos pratiques ou nos complémentarités, si on peut en parler comme ça, dans nos pratiques. C'est-à-dire de là où on parle, de là où on a parlé, où on a pratiqué à des moments donnés. Ce qui a été utilisé hier, précisément à un moment donné de l'après-midi, qui est ressurgi dans un document aujourd'hui, est clairement l'utilisation de faits historiques qui ont été retravaillés par certaines, mais qui sont utilisés à un moment donné, deux ans plus tard. Pour ce qui est de l'affaire intervention in situ hier et aujourd'hui. Donc je pense que c'est réellement autour de tout ça. Les archives lesbiennes existent. Elles sont à Paris pour des raisons, on va dire, pas aléatoires, mais c'est cette histoire-là. On essaie de diffuser, et moi entre autres, de nous promener, entre autres avec ce document depuis 2009, raconter l'histoire et la raconter de manière orale. Moi, je suis vraiment une orale là-dessus, et voilà, je suis une militante de base. Et aux archives lesbiennes, la plupart d'entre elles ne sont pas des grandes militantes comme certaines peuvent le revendiquer, mais elles tiennent à ces archives, à leur histoire et à continuer à transmettre. Donc, bien sûr, par les nouveaux outils, mais par cette pérennisation et ce refus de revisiter l'histoire et la révisionner, on va dire, hein, c'est-à-dire la réutiliser à des fins qui sont même plus subjectives, mais qui sont pour des outils stratégiques qui peuvent nous atteindre et qui nous atteignent énormément dans les histoires des milieux lesbiens. Les archives lesbiennes, comme dit la camarade, on a tout, aussi bien les t-shirts que les affiches, des milliers de films, des milliers de tracts et de documents de littérature grise. On a tout ça. On a assez peu de, comme d'autres archives peuvent avoir, assez peu de carnets intimes ou de lettres d'histoire de lesbiennes. On a plutôt du document politique et culturel. Je répète, dans ce document qu'on a vraiment mis 2 ans à faire, on a vraiment essayé de montrer justement cette diversité. Et comment les lesbiennes, même si elles ne se sont pas revendiquées lesbiennes, elles ont été dans des tas de collectifs, dans des tas de réseaux féministes, dans des tas de réseaux antiracistes, et qu'elles ont porté des paroles comme elles ont pu, assez diverses avec leurs différentes casquettes. C'est pour ça que, par exemple, j'ai ressorti la coordination des femmes noires, où certaines lesbiennes étaient, ou subsahariennes ou antillaises, ou très politisées et on va dire encartées d'extrême gauche, ou des femmes qui luttaient pour défendre l'autonomie de leur corps, par exemple. Parce que certaines lesbiennes ont été, sans se visibiliser, parce que se mettre en danger, elles ont eu ces pratiques-là. Et ce qu'il faut aussi aujourd'hui en 2013 être persuadé, c'est qu'on a été tout ça et qu'on continue à être tout ça. Et qu'il faut visibiliser tout ça. Le débat hier sur la lesbophobie dans les milieux du travail montre bien que nous devons et nous allier et ne pas rester isolés et visibiliser toutes ces pratiques. Les commissions femmes, les réseaux femmes féministes, que ce soit Marche mondiale, que ce soit Collectif aux droits des femmes, que ce soit, ça a toujours été les lesbiennes, au 9-10e. Si elles n'étaient pas lesbiennes, elles étaient femmes autonomes, féministes autonomes. Si nous ne parlons pas avec ce langage-là, c'est-à-dire que nos sexualités sont politiques, nous ne nous en sortirons pas. Et les archives lesbiennes, c'est tout ça aussi. Nous devons ressortir tout ça. Nous devons utiliser tout ça. Les armes, elles sont là. Mais si nous ne les utilisons pas et que nous ne pensons que c'est que du passé et que du papier, nous n'y arriverons pas. Nous allons revisiter l'histoire. On vieillit, on peut devenir Alzheimer, on peut revisiter l'histoire en fonction de... On est autre chose, on est passé à autre chose. Voilà. Et c'est pas possible, ça. Ce n'est plus possible. Donc voilà. Je voulais dire qu'on continue au niveau technique. Il y a des très jeune femme aux archives, beaucoup plus douée que moi au niveau de toutes les nouvelles techniques pour ce qui est de cette construction de réseau. Mais moi, je tiens à l'oralité, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et je tiens absolument à transmettre des pratiques de base. C'est peut-être mon côté ouvriériste et mon histoire de militante d'extrême gauche de base, mais c'est ça. Et je veux dire, la plupart d'entre vous ici, dans cette salle, ont à un moment donné de leur vie, si ce n'est encore maintenant, elles sont dans ces milieux de pratique. Voilà. Alors pour finir, je pense qu'on a aujourd'hui, on est dans une période en France et en Europe qui est autour d'une montée du fascisme qui n'est plus du tout illusoire, mais qui est quelque chose qui se construit totalement, et que nous devons continuer à nous visibiliser, mais nous renforcer, nous préserver, nous protéger mutuellement en ne nous isolant pas, parce que les agressions à tous les niveaux sont réelles et que nous ne pouvons pas reculer jusqu'à complètement se cacher. Donc il y a énormément d'initiatives qui se font en ce moment. En région parisienne, il y a des réseaux qui sont féministes, lesbiens, très très diverses. Il y a des cinquantaines et des centaines de féministes, de lesbiennes qui se mobilisent. On doit aujourd'hui continuer à avoir la tête haute. Et les archives lesbiennes, qu'elles soient à Paris, qu'elles soient à Toulouse, qu'on les crée à Nîmes ou autre, eh bien on doit continuer à se visibiliser. C'est ça qui fera qu'on continuera à pouvoir vivre et à surtout transmettre à toutes les jeunes lesbiennes qui elles aussi sont très en danger aujourd'hui, par leurs différentes visibilités. Voilà. Donc, je voulais vous dire que j'avais préparé un disco qui n'avait rien à voir avec celui-là. Je suis désolée, mais ça, c'est moi. Le document est là, et je pense qu'il a été traduit. Et en ce qui concerne les différentes données en ligne, on a vraiment tout ça, je pourrais vous le passer tout à l'heure, les différents les différents documents qu'on peut aller consulter. Donc voilà, en conclusion, je pense que l'histoire politique lesbienne peut permettre de comprendre toute l'histoire, en tout cas les différentes histoires, mais qu'on doit avoir vraiment des lunettes appropriées à des moments donnés et pas se restreindre. Voilà.
Je crois que ce n'est pas un hasard, finalement, la thématique devient une thématique de discussion de fond. Et, parce qu'on avait toutes préparé énormément de choses très techniques, très pratiques, mais bon, ça, ce sera pour la suite, donc c'est pas... Mais je vais quand même en rappeler quelques-uns, parce que je pensais que j'allais devoir dire comme une telle a dit. Mais donc, je vais juste résumer. Et j'ai écrit parce que on est vite parti. Il y a tellement de choses à dire et à faire, je vais m'en tenir à un texte. Et alors, comme ça, on aura beaucoup, beaucoup de place pour les besoins et le débat et le réseautage. Et voilà. Alors, moi-même, je viens de Belgique, donc, où j'ai tenu, où je milite depuis très longtemps, donc mon adolescence. À une période de jeune adulte, j'ai tenu pendant une vingtaine d'années la librairie lesbienne Artemis et pour femmes. J'ai pour femmes parce que les deux premières années c'était réservé uniquement aux femmes, ce qui était évidemment quasi intenable, mais j'ai réussi à le faire. Et après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y avait un étage lesbien qui était un étage semi-clandestin dont j'ai toujours réussi à préserver l'accès. Mais bon, c'est un autre débat. Je crois qu'on a chacune beaucoup d'histoires très intéressantes à dire, mais. Donc c'est quand même important à le rappeler que les périodes n'ont pas toujours été faciles, loin de là. On revient à des backlash, c'est-à-dire à des retours en arrière et à un tas de pays qui vivent ce qu'on a fait. Et puis c'est vraiment en dents de scie avec beaucoup de bas et de haut. Et l'objectif est maintenant, avec nos 30, 40, demi-siècles expérience de politique lesbienne, de créer vraiment avec notre maturité. Quand même, il faut y arriver, c'est-à-dire de ne pas se taper dessus quand on discute. Enfin, il y a des choses à apprendre et qu'on fait très bien. Je trouve que vraiment, on est arrivé à un tout autre stade. Donc, de partager nos expériences de nos vivants. Et puis, bon, après la mort, elle sera là. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on est là aussi, qu'on parle de transmission, qui n'est évidemment pas qu'une préservation de papier, loin de là. Mais qui est comment préserver nos lieux. Et ici, nous commençons la discussion par rapport à un lieu d'archives, mais ce sont tous nos lieux, hein, les lieux de vie, pour tous nos âges, la vieillesse, que nous soyons moins bien portantes ou moins bien allantes, peu importe le vocabulaire. Nous sommes vraiment très régulièrement en danger et c'est un fait historique, ce sont les lesbiennes qui s'occupent des lesbiennes, voilà. Voilà, donc j'en viens ici. Donc le fonds d'Artemis, c'est un fonds d'une vingtaine, trentaine d'années de toute l'histoire de l'histoire lesbienne en Belgique, mais aussi en Europe et dans le monde, puisqu'à un moment donné, Artemis vendait tout le fonds de ce qui existait dans le monde à certaines époques pour les lesbiennes. Alors ici, je viens pour faire une proposition pour un projet de base de données de réseau lesbien européen. Et je lis le texte parce que c'est assez technique. Ça permettra de discuter de points politiques, de comment on va gérer ça, mais aussi pratique. L'objectif, c'est donc de décloisonner nos projets et ajouter donc un projet de dimension transnationale, européen pour commencer. Inventorier et reproduire une fois pour la trentaine de pays concernés. En effet, une seule opération d'encodage et ou de scannage et ou de numérisation, etc., pour un même document ou article, par exemple, permet une diminution des coûts financiers, un gain de temps, un accès du plus grand nombre, donc centralisation des données, mais aussi leur multiplication par reproduction pour leur redistribution à chaque projet local. C'est aussi une meilleure garantie de préservation de notre mémoire. Travailler sur des copies évite que les originaux ne s'abîment, usure ou dégradation, disparaissent, volent, fréquentent ou censurent, ou ne soient modifiés. par autocensure, transformation, comme disait Michel, négationnisme ou invention. Donc on invente, détracte, enfin bon, on a déjà vu de tout. Hein, bon. Et enfin, ça permet un recensement et une localisation géographique des exemplaires originaux. Alors, l'objectif, c'est aussi donc, comme j'avais dit, de créer ou de préserver des originaux, des lieux, donc les projets locaux, mais peut-être aussi d'avoir quelque part un fonds européen pour des actions internationales, par exemple. C'est, tout est sous forme de proposition. Hein. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent, mais ici, l'objectif, c'est vraiment de réseauter, de faire connaître ça et diffuser. Voilà. Ensuite, ils font évidemment le nerf de la guerre, des fonds, un budget. Et là, faire appel à toute notre imagination. Nous sommes très, très forts dans le domaine. Donc, il y a toutes nos interventions individuelles. Faire appel à toutes les subventions les plus diverses qui soient, puisque c'est un retour de nos impôts, qui, en général, ne nous sont jamais retournés. Alors, pour assurer ce projet, il y a différents points à pouvoir assurer. Donc, c'est des coûts d'encodage et de copiage que j'ai déjà énumérés. Les coûts de transmission entre les structures locales et l'organe international. Les coûts de staff, parce que, bon, la plupart d'entre nous, enfin, beaucoup d'entre nous vivent de par leur militance, de par leurs origines dites sociales, beaucoup de précarité. Les coûts de fonctionnement, ça couvre aussi donc les coûts pour les réunions internationales, soit des technologies de communication. Nous avons cette chance que nous n'avons pas toujours connue de pouvoir communiquer avec des frais très faibles ou au moins créer un local où une communauté pourrait avoir accès, par exemple, à matériaux Internet, par exemple, informatique, ou assurer des déplacements, parce que rien de tel que les échanges, c'est ça que cette semaine est vraiment un miracle, c'est chaque fois un petit miracle qui se produit. Enfin, pour moi, ça me fait toujours cet effet-là de me dire, mais enfin, mais quelle chance d'avoir vécu ça. C'est chaque fois un événement historique, mais celui-ci en est quand même un particulièrement. Puisqu'il y avait longtemps que nous n'avions plus lu, à part Bagdam qui fait beaucoup de travail à ce niveau-là, mais pour le moment, les colloques n'existent plus là, mais de faire vraiment un très grand colloque, enfin, c'est plus que des colloques, c'est ici vraiment des ateliers d'intervention. Le but, c'est de communiquer. C'est frustrant, mais l'objectif serait d'en faire une suite, mais ça, ce sera à débattre en fin de semaine, donc de voir comment on va réussir ça à cette dimension-là, et où et comment. Mais donc, vous voyez, les mêmes problèmes se font pour chaque projet. De toute façon, ici, ce que j'évoque, c'est tous les points qui interviennent à choix, qui ont eu lieu ici aussi, de comment préserver un événement, comment faire pour qu'il ait lieu dans les meilleures conditions possibles et pour le maximum d'entre nous possible. Alors, les projets concernés, c'est, je vais en énumérer parce qu'on pense très souvent plus au centre de documentation ou d'archives, dans le sens conventionnel du terme. Archive étant un fond mort, enfin entre guillemets, c'est-à-dire la personne est décédée, c'est un centre de documentation est un centre de documentation qui, tout le temps, au fil des événements, va continuer à alimenter son fonds. C'est aussi tous les fonds de documentation, et c'est à ce titre-là que je suis là, qui est le fonds d'Artémis, qui sont des fonds que chaque association a ou que des individus qui un jour ont milité ou retournent à la militance ont, et puis hein, aimeraient bien léguer ou déposer à un moment donné suite à un déménagement ou autre. C'est aussi maintenant de plus en plus les bases de données en ligne qui sont extrêmement intéressantes. Il y en a eu plusieurs dont on a évoqué. Il y a les chronologies lesbiennes, il y a eu les chlamydias qui ont fait un travail extraordinaire de compilation, vraiment un travail exhaustif par rapport à la prévention et la santé des lesbiennes, etc. Voilà. Alors, et c'est trois petits points, hein, c'est sans limite. Les supports concernés, c'est évidemment tout ce qu'on peut préserver, évidemment, mais ce n'est pas toujours très réaliste. Donc là, il y a beaucoup de difficultés intrinsèques, que ce soit des problèmes de stockage, qui est le cas de vêtements. On parle de t-shirts. De t-shirts, ça, c'est celui des Amazones d'hier, lesbiennes d'aujourd'hui. Je veux dire, ce sont des petits bijoux, mais on aimerait bien un jour pouvoir les garder, et pas autrement que sur photo. C'est les objets d'art, ben oui, les musées ne regorgent pas d'œuvres lesbiennes et très souvent sont dans le meilleur des cas dans des caves où elles peuvent s'abîmer et croupir, ou disparaître, ou être attribuées à d'autres artistes. Je ne vais pas énumérer tout ce qu'il y a, mais c'est vraiment beaucoup de problèmes techniques. Hein. Les films ne se conservent pas de la même manière que les papiers, et eux-mêmes s'autodétruisent, hein, puisque maintenant on est de plus en plus dans des sociétés d'autoprogrammation pour l'hyperconsommation, qui présentent de nouveaux problèmes technologiques, n'est-ce pas ? Et un surcroît de travail à chaque fois, donc c'est vraiment toutes des choses à gérer. Voilà. Donc, dans la liste de choses à faire, bon, elle est longue, mais je vais quand même un petit peu résumer. L'objectif premier, dans un premier stade de ce réseau ici, par rapport à la mémoire lesbienne, c'est d'élaborer, de créer un groupe européen d'organisation de cette cellule, avec possibilité, sur le tard, c'est à nous à voir comment nous allons définir, possibilité de représentation de chaque fonds, élaborer une charte éthique. Il y aura toujours, et ça va accompagner pendant des siècles, la durée de nos luttes. C'est quoi la vérité historique? C'est vraiment toujours des questions fondamentales. Hein. On conserve jusqu'où? C'est quoi une lesbienne? Jusqu'où? Voilà, ça commence où? Ça se termine où? Du coup, on garde des fois que, etc. Mais bon, voilà. Établir une charte qui définisse quand même un petit peu les limites du fond, un modèle de fonctionnement vers le plus de démocratie possible. Enfin, ça a toujours été un souci au sein des mouvements lesbiens. Certaines ont moins de moins bien. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas là physiquement, par exemple, ou moins présentes parce que leur histoire est plus récente ou a moins de documents qu'elle est moins importante ou qu'elle n'est pas être là au même titre. Enfin, voilà. Deuxième point, et enfin chercher donc des fonds, ça c'est fondamental, et aussi tout le travail par rapport à la technologie, donc ça c'est dans les conservations. Et après de voir qu'est-ce qu'on fait de ces lieux aussi, une sorte de comité intergénérationnel, c'est-à-dire qui, comme les suffragettes l'ont fait, il y a une vingtaine d'années, j'avais été donc en Angleterre, et là, j'avais constaté, tout à fait par hasard, que des bâtiments, en tout cas à cette époque, existaient encore, financés à l'époque, donc au début du 19e siècle, par les suffragettes, étaient toujours préservés par la mairie de Londres et réservés aux femmes, mais qu'il était déjà question peut-être... Donc vous voyez, c'est aussi ce genre de mémoire. Pourquoi pas se faire comme ça existe dans d'autres communautés et demander ou revendiquer, par exemple, des lieux pareils pour notre communauté lesbienne, par exemple, comme vraiment une structure qui, historiquement, la filiation historique pourrait nous appartenir, par exemple, vous voyez, ou en tout cas que nous ayons un lieu de un regard de contrôle par rapport à ce genre de structure réellement collective qui avait existé pour que les femmes, beaucoup de lesbiennes à l'époque, déjà, évidemment, puissent vivre en sécurité. Voilà. Donc maintenant, c'est le lancement au débat, aux demandes, aux points d'éclaircissement.
Merci Marianne. Et il y a juste Dalila qui souhaitait absolument intervenir, et donc la voici maintenant ici. Et Dalila, qui va parler pendant 8 à 10 minutes.
Merci beaucoup de m'écouter. Je remercie vraiment du fond du cœur les LOX d'avoir interrompu leur atelier de travail pour que je n'intervienne pas devant une salle entièrement blanche. Ça m'aurait littéralement dévastée. Parce que je vois que la table n'est composée que de blanches et qu'il y a eu une sectorisation des interventions. Donc il va y avoir les femmes blanches qui parlent du passé, alors que le passé a été fait aussi par des femmes que vous appelez de couleur, pas moi. Le blanc n'est pas une couleur, il nécessite toutes les autres couleurs pour exister. Déjà, donc c'est une métaphore du pillage du monde. Donc je vais faire une intervention que j'ai écrite, qui va être donc très calme, très posée, et écrite en excellent français, donc personne ne me dira après, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Alors, elle s'appelle « Identité croisée, représentation et acculturation ». Donc, je ne parle pas que des lesbiennes, c'est la posture et l'imposture de l'Occident depuis un certain temps. Il existe actuellement en Occident un triple mouvement, dont une double posture et une imposture dans les sphères de l'esprit, de l'imaginaire et de l'existence concrète des gens. D'un côté, il y a les identités du Sud présentes au cœur de l'Occident. Tu veux me dire ? Tu veux bien me tenir? Mais que l'on cherche à cacher. Des populations de couleur, entre guillemets, hein, nommées par vous les Blancs, rendues invisibles, déportées et parquées à la périphérie des villes, telles que les définissent la majorité des projets urbains dits de rénovation des centres-villes, pour les restituer à leurs propriétaires dits légitimes, les bourgeois blancs du Nord. De ce même côté, une minorité de gens du Sud que l'on a cooptés à l'intérieur du monde blanc, sommée de visibiliser une partie des identités réelles cachées, mais selon les règles et le format défini par le monde blanc. Et quand je dis sommée, c'est au sens militaire de sommation. Tu feras du rail, mon fils, tu feras du football, ou tu ne seras pas. Là où tes qualités dites naturelles pourront le mieux s'exprimer. C'est ainsi qu'on arrive à la décision absurde d'autoriser exceptionnellement et dans l'urgence de lever les quotas de l'immigration pour embaucher par milliers à travers toute l'Europe des Indiens pour l'informatique à cause de leur disposition naturelle pour ces domaines dits scientifiques, qui ne sont que l'expression d'une domination technologique, elle-même résultat d'un pillage généralisé. L'Europe manque donc cruellement d'informaticiens et d'informaticiennes. Tous les jeunes formés en Europe, issus ou non de l'immigration, en étant exclus par avance. Tous les jeunes et toutes les jeunes. Je sais que ces questions de couleur énervent beaucoup de gens, mais ce n'est pas moi qui ai défini une échelle de couleur, qui définit le blanc comme le paramètre de référence de toutes les autres couleurs. On ne pourra en sortir que lorsque l'homme blanc, et aussi certaines femmes blanches collabos, parmi les lesbiennes aussi, auront cessé de définir le monde selon leurs critères et leurs standards. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Il y a donc les exclus, U, E, S, de toute construction d'identité, rejetés dans les périphéries et qui n'ont d'autre choix pour survivre que de se jeter dans une quête éperdue et désespérée de l'origine et ou de la religion comme référence structurée, ou bien d'un inventé de nouvelles qui opère par détournement. Exemple, le rap qui fait des enfants des cités, filles et garçons, illettrés au demeurant selon les normes de la scolarité bien pensée des élites, les inventeurs d'une nouvelle langue qui redonne du corps au jargon désincarné des technocrates et des gardiens momifiés de la langue, les détenteurs des académies. Et de nouveau, le système dominant, qui ne sait pas faire autrement, coopte ses nouveaux créateurs, en les semant de se tenir dans le créneau qu'ils et elles ont créé, qui devient ainsi une figure imposée. Tu feras du rap, mon fils ou ma fille, ou tu ne seras pas. Ainsi se crée comme un mouvement perpétuel, entre le ici et le là-bas, l'intérieur et l'extérieur, qui crée à chaque fois du centre et de la périphérie, comme si cette vision binaire du monde, cette machine géante créée par l'Occident qui avale et recrache au gré de ses humeurs et de ses intérêts, les personnes, les peuples et les communautés, devenait la vision unique, la référence ultime de nos vies et de nos pensées. Mais comme nous avons de la mémoire et que nous voyageons beaucoup avec nos corps et nos pensées, nous savons qu'il n'en est rien. Et nous débusquons inlassablement cette imposture, déjà précédée d'une autre, qui rejetait à la périphérie les femmes de tout acte dit de civilisation et qui s'accompagne d'une autre plus grave encore celle-là. Car non content de nous éclure de la mémoire de la réalité et de la représentation, comme il a exclu les femmes depuis près de 1000 ans, c'est ainsi qu'un film fait par un homme, comme Le pont de la rivière Kouai, où aucune femme ne figure, devient un classique du cinéma, alors qu'un film d'Elma Sanders, Les noces de Shirin, devient un film fait par une femme, comme on dit le roman féminin du 19e siècle en Angleterre, etc., etc. L'Occident cherche aujourd'hui à s'approprier nos identités vivantes. Cela ne lui suffit pas d'avoir pillé nos cultures anciennes en remplissant ses musées de toutes nos richesses. Il franchit un nouveau pas en s'instaurant dépositaire exclusif de notre propre mémoire et de nos identités. Non seulement il ne veut surtout pas qu'on soit comme lui, ce que d'ailleurs on ne souhaite même pas, même si on l'est parfois malgré nous, mais il veut être nous à notre place. Ainsi se développe la mode d'être noir parmi les jeunes blancs et les jeunes blanches, de revendication d'une africanité sous prétexte qu'on a passé 2 mois de vacances dans un club mail au Sénégal, de revendiquer ses racines arabes du temps de l'Andalousie. C'est vrai qu'à ce moment-là, l'Europe se définissait comme barbare, d'être l'unique gardien du classicisme dans la musique traditionnelle, etc., etc. Tout d'un coup, c'est devenu du dernier chic d'être un petit gars, une femme du Sud, d'être victimisée. Plus grave encore, on dénie aux étudiants et aux étudiantes issues des communautés immigrées toute légitimité objective pour construire l'histoire ou l'anthropologie de leurs origines. Les bourses d'études sont attribuées aux jeunes blanches et blancs. C'est vrai que les étudiants blancs n'ont pas de subjectivité puisque ce sont des scientifiques en devenir. Ainsi, ils et elles deviennent les gardiennes des mémoires des Suds à coup de légitimité construite sur une imposture. Je ne mets pas en cause la bonne volonté des jeunes blanches et blancs et leurs bons sentiments. Mais ce qu'ils font là et ce qu'elles font là s'appelle dépossession. Rapt d'un patrimoine culturel que les Suds ont bien voulu partager avec eux, mais sur lequel ils mettent un label, un brevet de propriété. N'est-ce pas, monsieur Picasso, quand vous avez peint sur les peintures de Dora Maar, que vous avez exclu de l'histoire de la peinture, et vous pouvez aller voir ces tableaux, c'est dans le musée d'Orsay. On nous refait le coup des Indiens d'Amérique, qui, après avoir accueilli et bercé les premiers blancs, arrivaient fatigués et grelottants. En échange de 3 pacotilles de verrerie, se sont réveillés brutalement dépossédés de leurs terres et de leurs identités par ces mêmes blancs et ces mêmes blanches qu'ils avaient protégées. C'est fou comme les Suds sont toujours accueillants et hospitaliers. Or, le problème, c'est que les personnes et peuples des Suds ne se revendiquent pas comme victimes, mais comme sujets, non pas de l'homme-roi blanc et des reines blanches, mais de leur propre histoire et de leur propre création. Ils veulent raconter une autre histoire que celle d'Emmanuel de l'Occident. Et des gardiens Au lieu de s'imprégner des richesses, des réalités multiculturelles de l'Europe, de partager équitablement dans un mouvement d'échange des imaginaires et des réalités, l'Occident et ses institutions s'arrogent le droit de dire la propriété intellectuelle, ce qui est bon ou mauvais dans le domaine du marché artistique, ce qui peut être ou non diffusé, ce qui peut générer des profits, ce qui peut être déconstruit ou disséqué sans respect pour l'intégrité des identités d'autrui, des personnes, des peuples et des civilisations. Et quand je prononce le mot d'intégrité, ce n'est pas une quête de pureté toujours dangereuse et sans objet. On sait déjà où elle nous a menés historiquement. Au contraire, je prône les métissages et les musiques entremêlées, mais sans appropriation exclusive telle que la propose l'Occident. Je ne revendique pas une arabité dont un tel ou un tel s'est redépositaire, mais que soient nommées les responsabilités historiques dans une reconnaissance des identités. Ne peut se mélanger que ce qui s'identifie bien. La fusion n'a rien à voir avec la confusion révisionniste qui réécrit en sens unique l'histoire des Suds, donc de leur colonisation par le Nord. Les véritables amis et alliés des Suds doivent commencer par se décoloniser le corps, l'esprit et l'imaginaire, de faire un travail sur leur refoulé de colonisateurs et colonisatrices, comme nous le faisons sur le nôtre de colonisés. Ainsi pourraient se construire de vraies amitiés non fondées sur la haine et la frustration, ni d'une quelconque dépossession, mais sur le savoir. Qui est et qui a fait et qui fait quoi aujourd'hui? Qui est qui? Qui fait quoi? Et qui fait quoi aujourd'hui, dans ce temps présent, pour tisser les liens d'une véritable humanité fondée sur le respect, non de l'argent et du pouvoir, mais sur l'amour de la vie et sur la beauté du monde. Je m'appelle Dalila Kadri et vous avez 2 films ici, Ombre solaire, Luciole, qui ont été boycottés officiellement par la LGP et par l'Eurolesbo Pride et qui sont à vendre 20 euros pour celles qui ont de l'argent et 15 euros pour celles qui n'en ont pas. Je vous remercie. Au revoir.
Juste répondre à Dalila Kadri et surtout informer que l'Euro Lesbo Pride n'a absolument pas boycotté Luciole, puisque Luciole et son film a été présenté hier matin à la Maison de la Région, qu'elle y était, qu'elle l'a bien présenté, et que nous payons des droits de diffusion, ce que nous ne faisons pas pour beaucoup d'autres films qui nous ont été offerts.
On revient au sujet. Mais c'est vrai que c'est un problème de base, comment on représente. Et c'est vrai, c'est des questions qui sont récurrentes et c'est important qu'elles restent. Donc, il ne faut pas trop s'énerver. Non, il faut écouter, il faut voir est-ce que je ne peux pas faire mieux la prochaine fois. En tant que sociologue, bon, j'ai regardé le programme. Moi, je le trouvais... Bon, c'est d'abord, c'est entre autres co-organisé par le LOCS. Bon, c'est quand même sur trois organisations. Il y en a une... Il y a trois co-organisations, dont une donc, qui est le LOCS. Quand je vois le programme des deux jours aujourd'hui et demain, qui étaient les deux jours, qui sont les deux jours où il y aura le plus de lesbiennes, donc quand même sur sept ateliers, c'est purement numérique, hein. Il y en a quatre qui sont considérés, qui ont dans leur panel ou comme sujet principal les thèmes de, enfin, il faut trouver un autre terme, donc de black entre guillemets, mais toutes les cultures, et je trouve c'est bien, c'est-à-dire pas blanche, hein, blanche étant aussi très nuancée en couleur, on commence ou on arrête tout, et c'est des questions qu'il faut garder. Je suis tout à fait d'accord. Alors au niveau des, et c'est fondamental, donc, et au niveau, il reste trois autres ateliers, et là-dedans, oui, il y a entre autres celui d'aujourd'hui. Il y avait celui qui était un thème spécifique des problèmes des pays de l'Est, enfin dit pays de l'Est, hein, avec tout aussi tous les guillemets. Hein. En fait, je ne fais que mettre des guillemets, hein, qui sont blanches, oui, mais non d'une pipe, c'est pas toujours cool non plus. Il y a des guerres là aussi. En fait, il y a des guerres planétaires. Enfin, moi, il me semblait que c'était un point assez commun. Enfin, bon. Et il faut continuer à discuter parce qu'il y a des spécificités, etc., etc. Il faut nous, et je l'ai dit moi aussi dans l'exposé, il faut vraiment qu'on s'interroge fondamentalement sur les techniques qu'on utilise et vraiment toujours penser notre juste représentation. Et là-dedans, c'est vrai, je voulais faire un exposé très court, j'aurais pu prendre comme exemple justement comment justement de façon juste, hein, c'est dans ce sens-là que je l'utilise, représenter chacune. Et la meilleure façon, c'est évidemment qu'elle soit aux commandes partout. Mais comme tout groupe minoritaire, plus on est minoritaire, moins on est, ou plus on est débordé déjà par des questions de survie. Donc, profitons du fait que d'autres soient au moment où elles sont là, je dis bien au moment où elles sont là, hein, en tant que lesbiennes, plus disponibles pour faire certaines choses. Et quand je parlais de charte éthique, par exemple, c'est ça aussi. Donc, dès le départ, l'idéal, certainement une structure européenne, et ce sera fait, enfin, moi je serai dans le groupe, et c'est ce que je faisais avec Artemis, c'était un choix de luxe, et c'est un choix politique qu'on a fait, qui faisait qu'on était tout le temps dans la précarité, c'est qu'on avait tous les titres lesbiens, tout le temps, qu'ils se vendent ou pas. Il y avait eu à un moment donné aussi une lesbienne américaine qui était venue, et bon, le racisme a toujours fait partie, il fera toujours partie des mouvements, il faudra toujours régler ça, et c'est normal, hein, jusqu'au moment où ça disparaisse, c'est l'idéal, enfin moi j'espère un jour que ce le soit, et elle avait dit, j'ai jamais vu autant de livres écrits sur des lesbiennes noires, enfin à l'époque c'était le terme qu'on utilisait, black lesbians, c'était englobant, ok, ça valait ce que ça valait, mais c'était ce qu'on utilisait, et à quel utilisait. Aux États-Unis, voilà. Donc pour moi, ça, je me disais, ah waouh, c'est chouette parce que bon, c'était quand même une fleur qu'elle me lançait. Pourtant, elle en avait déjà bavé derrière elle, et on était là vraiment entre goudous de dire qu'elle en avait vu aux États-Unis. Hein, je veux dire, donc j'avais plus de titres de lesbienne noire américaine qu'elle n'avait jamais vu dans un seul lieu aux États-Unis. Donc moi, alors que c'est pas liste. Pour tenir un propos complètement ridicule, et j'arrête là-dessus, j'aurais pu dire, oui, bon, c'est pas la Belgique, franchement, en quoi est-ce que ça me concerne? Ben, bien sûr que ça me concernait autant que les autres. Donc, franchement, oui, je m'étais sentie concernée, elle est passée, pour moi, ça a été un miracle, et c'est ça qu'en tant que lesbienne, c'est pour ça qu'on le fait. Et les solidarités vont dans tous les sens, et il faut les maintenir, et il faut... on a le sang chaud, il faut dire, c'est normal, on a tellement vécu, on doit apprendre... À se tenir main dans la main, un peu comme beaucoup réussissent. Allez, l'Afrique du Sud, c'est un bel exemple. Elles parviennent vraiment à faire des collectifs. Je résume un noir-blanc. Allez, il faut réinventer nos termes, des termes lesbiens, mais c'est des réalités. C'est ça, quoi. Moi, c'est plutôt ça qui me motive. Voilà. Et il y en a qui sont, de toute façon, ici, qui peuvent en parler. Enfin, voilà, j'arrête là-dessus. Mais bon...
Je pense que ce qui, que ce soit Delila ou tous les débats qui ont lieu ces derniers temps, c'est nous interroger en tant que lesbiennes, mais pas que lesbiennes. Moi, j'aimerais rajouter aussi la classe sociale, les pouvoirs, les différents pouvoirs ou non-pouvoirs dans lesquels on peut vivre, la génération et bien sûr d'où on est issu, entre guillemets. Et je pense que c'est autour de ça qu'on doit s'interroger, c'est-à-dire nous et nos contradictions. Quand je parlais de contradictions tout à l'heure, c'était ça. C'est quand on archive, en fonction de qui on est, bien sûr qu'il va y avoir des choix subjectifs. Il y a eu des débats dès le début autour de racisme, sexisme et tous les documents, entre guillemets, lesbiens ou pas. Il y avait les différentes tendances politiques, mais il y avait aussi, puisque dès le départ, il y a eu des débats autour de, justement, l'invisibilité ou l'invisibilisation de différentes personnes et courants, etc. Quand je parle de la coordination des femmes noires, c'est pas pour rien, c'est pas une anecdote. Ça a été pendant plus de 30 ans enterré, cette histoire de coordination des femmes noires. Ni les blanches ne l'assumaient, les parisiennes ou les différentes régions de France ne l'assumaient, l'avaient complètement oublié alors qu'on avait été dedans, ni les copines racisées ne connaissaient. On a ressorti les documents, pourtant c'est deux petits fanzines, mais c'est ce que ça a représenté à ce moment-là pendant des années. Donc ce qui est soulevé là, c'est comment, et on en revient au centre de notre débat, et moi je suis heureuse que Dalila, avec ce qu'est Dalila, soit intervenue, c'est en ce qui concerne la majorité d'une communauté qui est visible, comment on travaille sur nos contradictions. Aller au stand des archives lesbiennes, j'ai visibilisé on va dire des copines qui peuvent pas être là aujourd'hui. J'ai amené tout un travail qu'on a pu faire sur le racisme en tant que blanche, le racisme intégré. Ça a été un an, deux ans d'engueulade, mais aussi de travail et d'atelier. Je veux dire, c'est pas tabou, enfin je veux dire, c'est ce qu'on vit tous les jours, là où on le vit dans notre boulot, etc. Le racisme intégré, on le trimballe. Le racisme qu'on subit en fonction de nos histoires, on se le trimballe. Ça aussi, c'est à nommer parce que c'est nos histoires et nos contradictions dans nos histoires. C'est tout. Je veux dire, c'est pas. Et le travail qu'on doit faire sur justement les documents qu'on engrange, ça, c'est un problème de fond, c'est pas un problème de forme. Voilà.
Je voulais poser une question à toutes nos archivistes. Vous avez parlé d'archiver des journaux, des fanzines éventuellement. Je voulais savoir si vous archiviez aussi les blogs. Est-ce que vous-même allez chercher l'information pour l'archiver ou est-ce que vous n'archivez que ce qu'on vous donne?
C'est vraiment un réel problème, le problème des nouvelles technologies et donc des nouveaux documents virtuels. Donc on peut faire des saisies On peut faire des saisies à des moments donnés. Moi, je sais que c'est quelque chose d'assez insupportable pour moi de le faire, parce que je suis vraiment une femme de papier. Et oui, on le fait, mais c'est vraiment, vraiment un gros problème. C'est-à-dire que un blog, aussi bien qu'un site ou un fanzine... Alors, quand on a des documents qui sont papier, mais qu'on reçoit par une lettre d'info, par exemple, on va l'imprimer. Mais on le fera beaucoup moins que ce qu'on faisait quand on les recevait mensuellement ou trimestriellement, etc. Donc c'est un réel problème, cette mémoire. Comment on garde tout ce côté virtuel de la mémoire?
C'est pas la même façon de la conserver,
effectivement. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est vraiment une prise de tête pour toutes les archives, hein, globalement. Les archives institutionnelles se posent le même problème. Ils font des saisies d'écran à des moments donnés, tous les mois ou toutes les semaines, ou voilà, selon l'argent qu'ils ont. Mais même la bibliothèque Durand, n'en parlons pas parce qu'ils sont vraiment très en retard. Mais c'est très très difficile la saisie des nouveaux médias et des nouveaux. Enfin,
oui, mais une des solutions qu'on avait quand même discuté, c'était que si déjà chaque groupe ou chaque individu fait un travail d'auto-archivation, d'auto-préservation, d'auto-copiage. Mettre ça sur des disquettes, et je parle aussi pour les associations, c'est tout ça qui pèsera moins lourd. Et l'idée de cette européenne, c'est aussi de le faire savoir. Donc s'il y en a une qui fait ça, elle dit voilà, moi j'inventorie tout le fond de telle revue lesbienne, hein, on fait tout, notre collectif fait tout, mais c'est autant que toutes les autres archives ne doivent plus faire. Hein. Et l'idée d'aussi essayer de voir sur le plan technologique comment faire sorte de, il faudra trouver un terme, hein, qui nous est propre, Wikipédia, enfin website, un site web qui soit accessible à tous et dont on garde le contrôle et dans lequel on perd pas tout notre fric, parce qu'en fait c'est tout ça aussi à gérer. Mais voilà. Mais, ça, la première réponse concrète, c'est vraiment que chacune fasse déjà une masse de travail. Et puis ici, de créer au plus vite une cellule pour coordonner ça. Et petit à petit, vraiment mettre les briques pour tout le reste.
Oui, alors en ce qui concerne la coordination lesbienne, et si je me trompe un petit peu, Marie-Joseph est... toujours là, une oreille attentive à tout. Alors nous avons, on peut dire, deux travaux. Que nous gardons extrêmement plus vaste, avec des informations plus vastes, internationales, etc., que nous gardons, que nous n'éliminons pas, et le site des infos lesbiennes. Ce qui veut dire que peut-être à un moment, quand on a peut-être un petit peu plus de temps, on pourra refaire un ensemble de tout ça. C'est-à-dire les infos non seulement de concernant lesbiennes, mais les infos internationales, féministes, etc. Donc voilà. Et ce que demande très souvent la coordination, c'est que si vous avez vous-même des informations, vous pouvez être aussi tout autant actif de nous les communiquer. Et de voir si elles sont exploitables. Donc on peut dire que ça ne se limite pas au papier. Au jour d'aujourd'hui, ça ne se limite plus au papier. La preuve, on pourrait presque dire que le papier, maintenant, nous manque d'informations. Parce que beaucoup de journaux disparaissent, beaucoup d'infos papier, d'infos écrites disparaissent. Donc c'est peut-être même ça qui va commencer à poser des problèmes pour avoir un fonds d'informations.
Voilà, malheureusement, nous allons devoir clôturer. Il y a l'autre atelier.
J'avais juste une petite chose à dire. Pardon, j'avais demandé la parole. Merci. C'est à propos justement de l'intervention donc, de Dalila, parce qu'en fait, j'ai entendu la salle qui disait on n'avance pas, il faut avancer. Moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, on avance. Parce que voilà, je la remercie aussi d'être venue s'exprimer. Je crois que vous avez tout en mémoire, hein, parce qu'on est quand même pas mal de lesbiennes politiques présentes ici, et des lesbiennes actives, hein, sur le terrain. Vous avez tout en mémoire que ce qui à un moment fait scission au niveau de la coordination, ça a été cette question-là, parce qu'on n'a pas été en état de l'absorber, parce qu'on n'a pas été en état, pas de l'absorber, simplement de lui donner une place aussi. Nous, effectivement, les lesbiennes entre guillemets blanches, et je pense que c'est vraiment, je suis contente que je me dis, mais voilà, ça revient sur le tapis, parce que entre temps il s'est passé des choses aussi, et je trouve que c'est vraiment très bien, et je crois qu'on avance vraiment quand ces femmes ont le courage d'être là avec nous ensemble, et je crois que c'est aussi quelque chose de très constructif, et je voulais le dire parce que voilà, je déplore qu'on puisse penser qu'on n'avance pas alors qu'on a des interventions comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer.
Ah oui, merci beaucoup.
Merci. Je voulais dire que tous ces documents sont sur la table des archives, au stand des archives.
Oui, voilà. Mais moi, ce que je voudrais quand même juste dire, d'abord, pour la partie pratique, si le projet vous intéresse, tous les projets... voilà, laissez vos références, je vais mettre là-bas, je vais noter tous les emails et autres. De toute façon, tous les centres connus, bases de données, etc. vont être contactés, mais évidemment, plus tôt vous êtes dans le projet, mieux c'est. Il y aura évidemment une recherche de réelle représentation, mais voilà. Mais moi, ce que je voudrais aussi juste clôturer par rapport à ce qui est intervenu, c'est que nous avons aussi beaucoup d'expériences d'expériences politiques diversifiées, et ça, nous pouvons aussi partager. Et il faut qu'on apprenne à nuancer nos critiques. Parce que je trouvais... La critique est intéressante si elle nous fait avancer, pas si elle nous fait rester ou qu'elle nous... Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.